qui sont le résultat d'une étude qui m'avait été demandée par un groupe de régions, l'agenda urbain, hein, pour l'appeler par son nom, qui représente les régions au sein de l'Union européenne, à destination de l'Union, de la Commission, qui est, comme vous le savez, en train de préparer un texte sur l'intelligence artificielle à haut risque, et qui souhaitait notamment avoir une expertise et un regard sur les technologies de surveillance, et plus particulièrement l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Donc je n'évoquerai pas les usages commerciaux ou certains usages très spécifiques, comme ceux qui ont été évoqués, par exemple, pour les authentifications sur les papiers d'identité, mais moi, mon idée et ma réflexion portent véritablement sur l'opportunité, la légalité, l'encadrement de ces dispositifs dans l'espace public. Alors, afin de pouvoir... Oui, j'entends des commentaires. Alors, comme je ne vous vois plus, moi, je vois simplement le PowerPoint.
Alors, merci de couper encore une fois vos micros pendant cette intervention et pour éviter que les bruits de fond qui vous entourent soient partagés avec nous, ce qui n'est pas le but. Voilà.
Alors, j'ai prévu de vous présenter cette intervention en deux temps, sachant qu'il y avait énormément de sujets et que j'ai dû faire des choix, et que bien sûr, au cours de la discussion, je pourrais évoquer certains qui auraient pu être écartés. Dans un premier temps, il me semblait important et intéressant de cartographier un petit peu les pratiques. J'avais commencé à le faire dans l'étude que vous avez mentionnée. Là, on a un petit peu étendu le spectre de cette étude pour précisément avoir une image fidèle de ce qui se faisait en Europe. Parce que très souvent, un des écueils que l'on rencontre, notamment dans la doctrine, c'est que l'on raisonne à partir de cas qui sont étrangers, hors Europe. Or, il est très important de prendre en considération, à mon sens, la réalité de terrain européenne, afin de pouvoir adopter des solutions qui sont très propices et adaptées, car nous n'avons pas le même environnement légal qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est la première étape de la démonstration. Et ensuite, eh bien, je vous parlerai des obstacles et des limites au déploiement de la technologie au regard du cadre légal, car ils sont encore nombreux aujourd'hui, que ce soit sur le terrain des droits fondamentaux ou même de l'encadrement législatif européen. Et en conclusion, je formulerai quelques propositions qui rejoignent les papiers qui ont été mentionnés d'ores et déjà tout à l'heure, hein, notamment concernant l'analyse d'impact que je partage pleinement et sur lequel on pourra sans doute avoir un riche échange. Donc je commence par tout d'abord une petite cartographie, qu'est-ce qui se fait en Europe ou qu'est-ce qui s'est fait. Donc j'ai étudié 15 États européens au regard des informations qui étaient disponibles, parce que c'est très difficile d'avoir ces informations-là, car la transparence n'est pas toujours de mise. Donc, 15 États européens qui m'ont permis de recenser à peu près 53 cas, qui sont à la fois des expérimentations qui ont pu être conduites, ou des déploiements définitifs, mais qui sont quand même plus rares. Mais c'est le cas d'ores et déjà dans certains pays, comme en Grèce, où par exemple les forces de police vont pouvoir utiliser la reconnaissance faciale, notamment en live, dans l'espace public. Par ailleurs, dans tous les chiffres que vous allez voir, j'ai placé le cas du Royaume-Uni à part, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été menées. C'est très intéressant de réfléchir sur ces cas, et notamment parce qu'il y a, eu de la jurisprudence. Pour autant, dans la mesure où ils ont un, quitter l'Europe, et que deux, la culture de la surveillance n'est pas la même qu'au sein de l'Union, d'autres pays de l'Union, on a préféré le traiter à part. C'est notamment ce qui est ressorti d'un certain nombre d'interviews que j'ai pu également mener pour ce travail avec l'ensemble des institutions européennes, que ce soit les membres de la Commission, l'Agence pour les droits fondamentaux et d'autres interlocuteurs. Alors, il ressort de ces données que là, il y a trois principaux domaines d'expérimentation en Europe. Tout d'abord, les transports, notamment dans le domaine aérien qui a été mentionné précédemment. Deuxièmement, pour les événements publics. À Nice, on a eu un exemple avec le carnaval. Hein, c'est une des expérimentations françaises qui, notamment, a fait grand bruit. Je pourrais vous en donner un peu plus de détails au cours de la discussion, parce que j'ai pu discuter avec les différents acteurs, police, associations et autres, qui ont été autour de cette événements des acteurs importants. Et puis, à titre plus accessoire, dans les écoles, il y a eu des expérimentations en France qui ont été avortées, notamment au regard de la position de la CNIL, mais surtout d'une décision du tribunal administratif de Marseille. Également en Espagne et en Suède, où les écoles ont ici encore été sanctionnées. Alors, que pouvons-nous dire? Comment faire parler ces chiffres? Plusieurs éléments. Donc, tout d'abord, authentification et identification ont tous deux été utilisés au cours de ces expérimentations, même s'il y a beaucoup plus d'expérimentations qui mobilisent l'authentification en milieu contrôlé, comme c'est le cas dans les aéroports. Alors, identification, un petit peu moins, on verra pourquoi après, notamment parce qu'il y a des incertitudes quant à l'état de droit applicable qui freinent un certain nombre d'acteurs à mener des expérimentations en la matière. On peut par ailleurs souligner, c'est le dernier schéma que vous avez, que ces expérimentations ont été conduites principalement sur la période 2016-2021, sachant que le Covid n'a absolument pas stoppé cette dynamique, au contraire, même si je puis dire, puisque par exemple dans les transports, le Covid encourage de plus en plus l'utilisation de la reconnaissance faciale au nom de la vie sans contact. Troisièmement, vous dire que la reconnaissance faciale, c'est une multiplicité de dispositifs. Donc, on pense à l'équipement de caméras, mais il y a aussi les caméras qui sont déjà équipées, il y a aussi les bodycams, il y a aussi tout un ensemble de dispositifs comme les dispositifs de type iPhone et autres qui sont utilisés par certaines polices. Donc, il n'y a pas qu'un seul dispositif, passe pas qu'un seul équipement. Et enfin, le dernier, qui est en réalité le premier, je ne sais pas, montre comment ont été déployés ou dans quelles mesures ces expérimentations ont été déployées. Vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de projets qui ont été abandonnés ou qui n'ont pas été renouvelés, soit en raison du coût de ces opérations pour le secteur public, soit, et c'est plus souvent ce qui est avancé par les auteurs, les responsables de ces expérimentations, pour des obstacles de nature législative et réglementaire. Alors, j'en viens à présent aux obstacles et aux limites du déploiement de la technologie. Alors, trois types d'obstacles qui ont été invoqués par les acteurs et sur lesquels je vais revenir plus ou moins longuement. Tout d'abord, les vulnérabilités techniques qui demeurent. Elles ont été évoquées dans le premier exposé, donc je me contenterai de certains éléments complémentaires que j'ai pu rencontrer dans mes recherches. Ensuite, il y a bien évidemment l'atteinte fondamentaux aux droits fondamentaux qui posent aussi des problèmes en termes d'acceptabilité sociale, parce que ces risques-là, ils sont, le public est de plus en plus sensible à ces risques, et donc il y a aussi des craintes de ce point de vue-là. Et puis, les difficultés liées à l'absence de base légale effective qui va permettre le déploiement de ces dispositifs dans l'espace public. Alors, sur les vulnérabilités techniques, j'aurais deux choses à dire. La première, elle tient aux erreurs et aux biais, et la seconde, à la sécurité. Alors, c'est vrai qu'il a été dit, il y a quand même une variabilité importante. Alors, même si, comme il a été dit en première partie, il y a d'énormes progrès qui ont été faits en matière de reconnaissance faciale ces dernières années, il y a encore une variabilité assez forte des résultats en fonction des environnements. Notamment pour tout ce qui est identification, on s'aperçoit que les résultats varient plus facilement, notamment au regard de l'environnement et des critères démographiques, que l'on dit les critères ethniques, que dans des cas d'authentification, vous êtes dans un espace contrôlé, où l'éclairage est contrôlé également, et où vous pouvez identifier plus facilement la personne. Alors ça, notamment, ça a été rappelé par de multiples études, même récentes, mais ça a également été, j'ai pu avoir également plusieurs témoignages, notamment des forces de gendarmerie, qui ont fait état parfois de la difficulté d'utiliser ces outils a posteriori, notamment sur les scènes de crime pour identifier les personnes. Par ailleurs, concernant les biais, alors là on sort un petit peu de l'espace public, mais la question des personnes de couleur reste entière, puisque on a rencontré notamment beaucoup de problèmes ont été rapportés en ce qui concerne la surveillance des examens, notamment, où les personnes de couleur devaient s'éclairer beaucoup plus que les personnes blanches, hein, de peau blanche, parce que les systèmes dysfonctionnaient davantage sur ces personnes. Donc, des biais qui ne sont pas encore parfaitement résolus. Troisième élément, qui est rapporté également par la NIST et qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, les systèmes ils sont majoritairement dysfonctionnels sur les personnes indiennes, et pas sur les personnes noires. Pourquoi? Parce qu'on manque encore de bases d'entraînement. Alors, ce dernier élément, il est important pour comprendre l'origine du problème et comprendre également qu'il va pouvoir aussi être surmonté et qu'il est également important de réfléchir à l'opportunité de la reconnaissance faciale au-delà de la question même des biais. J'y reviendrai un peu plus tard. Vient ensuite les problèmes de sécurité. Viennent ensuite les problèmes de bonsoir. Sécurité.
Au revoir.
Au revoir. Viennent ensuite les problèmes de sécurité. Alors, là encore, il faut souligner deux types d'éléments. Premièrement, il y a beaucoup d'études récentes qui montrent qu'il y a des moyens de contourner ou d'usurper les systèmes de reconnaissance faciale à travers de l'impression 3D, à travers tout un ensemble de techniques qui permettent l'usurpation d'identité. Et d'autre part, il y a eu d'importantes fuites de données. Alors, plusieurs cas ont été rapportés, mais la plus spectaculaire d'entre elles date de l'été 2019. Elle concernait une société qui s'appelle Suprema, donc ce n'est pas Idemia, mais elle concernait quand même un leader du secteur nord-coréen qui était utilisé, dont les services étaient notamment utilisés par les forces de police anglaises, notamment londoniennes, également par la Belgique, les Pays-Bas et d'autres pays européens. Et la fuite de données a permis d'accéder à des données biométriques qui, le rappelle, sont des données ultra sensibles. C'est la raison pour laquelle, et je crois qu'il faut rappeler cet élément-là, parce que utiliser des données biométriques, ce n'est pas utiliser n'importe quelle donnée personnelle. Ce sont des données qui sont intrinsèquement liées à la personne humaine. Une fois qu'on vous vole vos données biométriques, il faut rappeler qu'il n'y a pas de voie de secours pour la personne qui a fait l'objet de ce vol-là, si ce n'est la chirurgie esthétique, puisqu'on va pouvoir se servir de vos... De vos données, et ce dans le temps, puisque les systèmes fonctionnent indépendamment de l'âge. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées en ce sens. Donc, ça reste pas anodin d'utiliser ces dispositifs-là. Et là, je crois que je serais peut-être en désaccord avec la première intervention, de dire ben, finalement, ça facilite le quotidien. Certes, ça le facilite, mais est-ce que l'on souhaite utiliser des données aussi sensibles pour des usages qui sont parfois banals, si je puis dire. Alors, bien évidemment, quand je vous disais le risque, il se pose en termes technologiques, mais il se pose aussi en termes de droits fondamentaux, et il est nécessaire de penser la question au-delà des biais. Eh bien, j'en viens à ce second point, les risques d'atteinte. Alors, ce point, il a été souligné par de nombreuses ONG, associations et institutions européennes. Vous avez sous les yeux un extrait du livre blanc de la Commission européenne qui date de février 2020, où le risque en matière de reconnaissance faciale était particulièrement souligné par la Commission européenne. Alors, ces risques, ils sont multiples. Et il serait difficile de... On pourrait faire toute une séance sur les risques en matière de droits fondamentaux. Je vous les ai résumés ici en trois points, ou en trois catégories, si je puis dire, de liberté. Tout d'abord, on peut craindre un effet dissuasif sur la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion pacifique. Deuxièmement, il y a un risque d'atteinte au droit à la vie privée et au droit de la protection des données personnelles. Et enfin, il peut y avoir des menaces sur le principe d'égalité et de dignité qui vont être liées notamment aux failles techniques que l'on mentionnait. Et là, on peut reprendre les exemples des étudiants qui doivent faire leurs examens ultra éclairés et dans des conditions assez difficiles en raison des dysfonctionnements qui demeurent au regard de ces systèmes. Alors, Pour autant, il faut dire que l'approche qui est celle de nombreuses institutions ces derniers temps, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui a marqué la fin de l'année 2020 et l'année 2021, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations de défense des droits de l'homme qui ont montré que pour autant, ce risque n'était pas insurmontable et qu'il y avait la possibilité d'envisager des conciliations entre la sécurité qui est censée servir ce type de dispositif-là et les libertés fondamentales. Ainsi, on a pu avoir une étude de l'Agence pour les droits fondamentaux qui a posé un certain nombre de garanties qui permettraient d'utiliser la reconnaissance faciale, ou plus récemment, les guidelines du Conseil de l'Europe qui, là encore, envisagent un certain nombre de compromis pour permettre l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Ce qui apparaît alors à la fois au regard de ces études et à la fois au regard de la jurisprudence, à la fois de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union, c'est que ce qui est complètement contraire aux droits fondamentaux, et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la Commission européenne dans le papier qui a fuité ce matin sur la proposition de législation qui devrait paraître officiellement fin avril, c'est que la surveillance en temps réel, en continu, de l'ensemble des individus n'est absolument pas conforme aux droits fondamentaux. La surveillance généralisée en elle-même n'est pas conforme aux libertés individuelles. Ainsi, si on ramène ça à la reconnaissance faciale, déployer la reconnaissance faciale en live dans l'espace public, donc très concrètement, mettre une caméra dotée de reconnaissance faciale sur la promenade des Anglais en continu, c'est complètement contraire aux droits fondamentaux. En revanche, déployer la reconnaissance faciale à des fins limitées, dans un espace-temps limité, avec des garanties solides par rapport au traitement qui sera fait des données biométriques pour leur anonymisation, pour leur suppression, pour les responsables du traitement et les personnes qui vont accéder à ces informations, là, on rentre dans un régime de compatibilité entre droits fondamentaux et reconnaissance faciale. Alors, il est très intéressant d'appliquer cette grille de lecture sur les récentes propositions qui ont été faites en France, notamment, pour pouvoir autoriser la reconnaissance faciale. Donc, on a par exemple eu ces deux amendements que vous allez voir dans les slides qui viennent, qui n'ont pas été adoptés, mais qui ont été déposés dans le cadre de la loi pour une sécurité globale. Donc, le premier avait vocation à lutter à prévenir le terrorisme. Donc, il prévoyait d'instaurer une surveillance générale pour identifier des individus ciblés présentant une menace. Donc, ce type d'amendement-là, ce type de loi-là, même si elle est justifiée par des finalités de lutte contre le terrorisme, ne me semble absolument pas conforme à notre régime de liberté publique et à la jurisprudence européenne en la matière. Autre amendement qui avait également été déposé, il visait à normaliser l'usage de la technologie dans les transports en commun. Là encore, on voit qu'on a un usage qui n'est pas conforme au régime de liberté, puisqu'il s'agissait de surveiller en continu un espace public, sans distinction entre les individus, hein, c'est tous les individus, et sans limite dans le temps. Donc ça, c'est typiquement deux propositions de loi qui n'auraient pas tenu, si je puis dire, l'examen de conventionnalité qui pourrait être diligenté contre ces textes. Alors, le troisième problème qui se pose pour le déploiement de la reconnaissance faciale, il tient à ce que j'identifie comme l'absence de fondement légal solide. Alors, comme il a été dit, la reconnaissance faciale implique le traitement de données biométriques. Donc, le traitement de données biométriques, que ce soit dans la directive police-justice article 10 ou dans l'article 9 du RGPD, qui s'applique en fonction des finalités du traitement, hein, lorsque vous avez un traitement qui est mis en œuvre à des fins typiquement policières, ce sera la directive police-justice. Eh bien, ces deux textes limitent, voire interdisent le traitement des données biométriques, sauf dans le cas de certaines exceptions qui sont prévues dans ces articles. Donc, ces exceptions sont au nombre de… Alors, appliquées à la reconnaissance… qui pourraient être mobilisées dans le cadre de la reconnaissance faciale sont au nombre de 3 dans la directive police-justice, de 4 dans le RGPD. Et je vais essayer de vous montrer très brièvement que finalement, ils ne s'appliquent pas à notre cas du jour, à notre cas d'espèce, à savoir la reconnaissance, le déploiement de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Donc, la première exemption qui est commune aux deux textes concerne les intérêts vitaux du sujet. Alors, on aurait pu invoquer cette exception puisque la reconnaissance faciale a été utilisée dans le cadre de la crise pour en effet contrôler les masques. Alors, ce qui était dit dans la première intervention, je partage d'ailleurs, il ne s'agit pas exactement de reconnaissance faciale. En effet, puisqu'on ne va pas identifier une personne. Toutefois, ce qu'ont dit les autorités de contrôle. Alors, toutefois, ça reste de la vidéo intelligente, de l'analyse de vidéo intelligente, qui vont permettre de déterminer des caractéristiques particulières et qui pourraient avoir des effets discriminants, pas sur le terrain de la protection des données, mais sur le terrain des droits fondamentaux, s'ils conduisaient à des notifications, notamment sur les personnes vulnérables ou les personnes qui ne pourraient pas porter correctement le masque, je pourrais y revenir. Et surtout, les autorités de protection des données ont dit finalement accepter ce type de technologie, c'est ouvrir la possibilité de la reconnaissance faciale. Les autorités de contrôle ont fait un lien, donc il peut peut-être être critiqué, mais ont fait un lien entre les deux technologies. Donc, on aurait pu invoquer les intérêts vitaux. Pour autant, il y a quand même une interprétation assez restrictive qui est faite de ces derniers. Dans la mesure où les intérêts vitaux peuvent être invoqués uniquement si la personne n'est pas en mesure de donner son consentement. Or, ce n'est absolument pas le cas lorsque l'on développe à grande échelle la reconnaissance faciale dans l'espace public. La deuxième exception dans ces textes, elle tient aux données qui ont été manifestement rendues publiques. C'est-à-dire qu'on peut traiter les données qui ont été rendues publiques par les utilisateurs. Un grand nombre de personnes ont rendu publiques leurs images biométriques au travers de leurs photos de profil. Donc, on pourrait également considérer que dès lors que l'on rend public ces données faciales, ces données biométriques, à ce moment-là, on permet leur traitement. Alors là encore, il y a une interprétation restrictive de la notion qui doit être opérée, hein, d'après les lignes directrices d'interprétation européenne. C'est également ce que nous dit le Conseil de l'Europe, c'est également la position qui a été adoptée hors Europe par d'autres autorités de protection des données, et là je pense au Canada, mais il reste un risque important que l'on peut souligner accessoirement, c'est que cette disposition, elle est quand même problématique en ce qu'elle permet la constitution de bases de données biométriques, comme ça a été le cas par des entreprises telles que Clearview ou PMIs en Europe qui ont constitué ces bases de données à partir des réseaux sociaux. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette exemption, elle n'est pas applicable encore une fois et elle ne permet pas à une autorité publique qui souhaiterait déployer la reconnaissance faciale de le faire sur ce fondement. Troisième fondement légal, c'est le consentement explicite. Alors, celui-ci n'est pas commun aux deux textes. Il s'applique uniquement dans le cadre du RGPD. Donc, par exemple, lorsque l'on va déployer la reconnaissance faciale pour gérer un flux de personnes, pour faciliter l'accès à un événement. Alors, le problème du consentement, c'est que... alors, il peut être invoqué comme fondement légal, mais il s'adapte mal à la reconnaissance faciale. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des exigences dans le RGPD qui très contraignantes par rapport à celui-ci pour qu'il soit effectif. Cela suppose une action positive de la part du responsable de traitement. Il faut nécessairement proposer une solution alternative. La personne doit pouvoir également retirer son consentement et ce consentement doit être libre et éclairé. Donc, typiquement, lorsque vous utilisez le consentement à des fins d'identification dans l'espace public, ben, on comprend que ça ne peut pas marcher parce que comment une personne va pouvoir retirer son consentement, c'est quasiment impossible. Et par ailleurs, le consentement libre et éclairé, il faut vraiment qu'il soit garanti puisque dans le cadre des écoles, le tribunal administratif de Marseille a considéré que ce consentement n'était ni libre ni éclairé au regard du rapport d'autorité qui était instauré entre les élèves et l'établissement en question. Donc, on voit bien que certes, ce consentement peut s'appliquer dans certains cas assez restreints d'authentification comme dans les aéroports, mais que c'est inadapté pour généraliser l'usage, notamment à des finalités d'identification, dans l'espace public. Donc la seule exemption qui reste, la seule exception valable dans les textes à ce jour, c'est l'exception légale. Cette exception légale, elle consiste en quoi ? Elle consiste à dire, vous pouvez déployer la reconnaissance faciale si un texte de loi le permet, soit dans la législation européenne, soit dans la législation nationale, pour des motifs d'intérêt public important dans le cadre du RGPD, en cas de nécessité absolue, dans le cadre de la directive police-justice. Alors, le problème qui se pose, c'est que, comme vous le voyez, ces exceptions, elles sont quand même extrêmement larges. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt public ou d'une nécessité absolue, il est possible de déployer ces dispositifs. Pour autant, donc ça reste quand même un problème qui, à mon sens, doit être précisé par le législateur. Pour autant, à ce jour, il n'y a aucune loi, que ce soit à l'échelon européen ou à l'échelon national, qui a autorisé ou limité l'usage de la reconnaissance faciale en Europe. Alors, cette situation, elle a conduit à des difficultés en termes d'interprétation, puisque, comme vous pouvez le voir dans le schéma présenté, les autorités de contrôle ont adopté des positions assez diverses en Europe. Et on l'a vu sur d'autres technologies de référence, de surveillance. Je pense ici aux drones, où on a eu des positions encore plus tranchées, puisque, par exemple, en France, on a décidé d'interdire le déploiement des technologies de drones, tandis qu'en en Espagne, on les a autorisées. Donc, en Europe, eh bien, on a des positions divergentes, avec toutefois un point de convergence, si je puis dire, c'est un appel constant aux législateurs à intervenir pour remédier à la situation et permettre aux autorités de contrôle d'apporter et aux acteurs sur le terrain d'apporter la sécurité juridique nécessaire au déploiement de ces opérations. Un point conclusif avec quelques propositions, même si vraiment j'ai le sentiment de ne pas avoir tout abordé, mais peut-être que la discussion nous permettra de laisser la place à la discussion. À ce jour, il me semble urgent pour le législateur d'intervenir afin de clarifier les exceptions que j'ai mentionnées, mais aussi d'adopter une base légale solide qui va permettre de distinguer les usages en prenant bien en considération la diversité de ces usages, authentification, identification, en prenant aussi en considération les différents risques. Je n'ai pas mentionné ce point, mais ils me viennent lorsque je pense au cadre légal, les risques liés aux algorithmes, les risques liés à la constitution des bases de données, etc. Donc ça c'est un premier point qui me paraît essentiel. À cet égard, je crois qu'il y a des usages qui doivent être fermement interdits en démocratie, parce que, comme je le disais, c'est pas une technologie qui est anodine. On est en train de parler de données extrêmement sensibles, et donc il me semble important qu'elles ne soient pas banalisées à cet égard. Je crois, par exemple, qu'elle devrait être interdite pour les infractions totalement mineures. Je crois, en outre, que lorsqu'elle est couplée, elle devrait également être interdite lorsqu'elle est couplée à la reconnaissance émotionnelle qui a été invoquée, parce qu'on voit qu'elle se, en tout cas à l'étranger et dans certains projets expérimentaux, elle se déploie. Donc, je suis consciente que la reconnaissance émotionnelle n'est pas la reconnaissance faciale, mais très souvent, dans l'analyse vidéo dotée d'intelligence artificielle, elles sont couplées. Ça a notamment été le cas dans une expérimentation au Brésil, dans le métro de Sao Paulo, qui donne actuellement lieu à un contentieux important qu'il faut suivre, parce que c'est un des premiers dans le monde à se positionner sur cette question-là. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, je crois qu'il va falloir également renforcer nos outils. On a très brièvement invoqué l'importance des analyses d'impact. Je crois qu'en effet, les analyses d'impact sont des outils indispensables et très utiles à la démocratisation de ces processus. Et il y a énormément de dispositions qui doivent être adaptées pour renforcer ces outils et faire qu'ils soient effectifs. Parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas notamment au regard de la législation, puisqu'ils ne sont pas obligatoires expressément en matière de reconnaissance faciale, même si beaucoup d'autorités de contrôle les considèrent comme telles. On s'aperçoit par exemple en Grèce que dans le cadre du déploiement de la reconnaissance faciale par les forces de police, on ne sait toujours pas si l'AIPD a été diligentée ou pas. On ne sait pas quels sont les résultats de cet AIPD. Donc ça pose quand même des difficultés. D'autre part, ces AIPD sont largement fonction d'un jugement en opportunité du responsable de traitement, ce qui pose des problèmes également. Troisièmement, elles ne sont pas... il n'y a pas de méthodologie en matière d'AIPD, donc il y a aussi des cultures d'AIPD qui s'opposent. Certaines autorités de contrôle invitent à contrôler les risques en termes de droits fondamentaux, d'autres moins, elles se concentrent davantage sur la sécurité. Donc je crois qu'on peut également améliorer ce dispositif. Enfin, un point que je n'ai pas mentionné dans mes slides, mais qui me semble très important, c'est que je crois qu'il faut davantage impliquer les autorités nationales de contrôle qui ne le sont pas aujourd'hui. Alors, le point positif de la proposition de réglementation qui est sortie ce matin, c'est que précisément, on en revient à un système d'autorisation qui passerait, parce que ce texte n'est qu'une proposition et n'est pas la proposition définitive, mais qui passerait par les autorités de contrôle. Donc, on reviendrait sur le système de responsabilisation des acteurs qui... est dominant et qui est la logique finalement des textes européens. Là encore, je pense que c'est un très bon point d'améliorer les processus de co-régulation pour vérifier de la conformité et apporter, un, de la sécurité juridique, deux, rassurer le public au regard des enjeux de cette technologie qui sont majeurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la reconnaissance spatiale et ses enjeux légaux. Et je serai évidemment très heureuse de répondre à toutes vos questions.